mobiles d'agir à Gaza ne sont pas forcément d'abord scientifiques. Le département de l'archéologie à l'école publique est quand même subventionné pour les fouilles par le ministère français des Affaires étrangères. C'est eux qui ont demandé en 1994, lorsqu'il y a eu la fameuse poignée de main entre les Palestiniens et les Israéliens, quand on croyait que le problème politique était résolu, la France aussi a cru, le gouvernement, et a demandé à l'école publique de faire une coopération rapidement de manière à ce que la France soit parmi les premiers à coopérer avec la Nouvelle-Palestine. Donc le projet, si vous voulez, a quand même un but politique, mais dans l'archéologie, c'est souvent le cas. Cela dit, intervenir à Gaza, c'est tout de suite scientifique, parce que la région avait été un peu délaissée par les archéologues depuis 100 ans, et le patrimoine, si vous voulez, le potentiel archéologique était presque intact. Étant donné que c'est un peu sur la frange de l'archéologie dite biblique, ou du moins là où elle s'exerce, c'était une chance formidable d'intervenir à Gaza.
Vous avez parlé des enjeux politiques, avant toute chose de ces fouilles archéologiques. Et les Israéliens se sont servis de leurs recherches archéologiques pour ancrer historiquement l'État hébreu. Alors peut-on en dire autant des Palestiniens, cherchent-ils à faire la même chose?
Israël a profité de l'archéologie pour s'enraciner. Je dirais oui, mais plutôt pour essayer de former une identité israélienne. C'est les hommes avant les pierres. Israël, effectivement, peut-être abusivement, a capté le patrimoine, pris le monopole de tout ce qui était culturel et archéologique dans la Palestine historique, donc Israël plus Palestine. Et du coup, les Palestiniens étaient assez gênés, et je reconnais qu'ils avaient raison, d'essayer de faire la même chose. Étant donné que c'eût été quand même assez délicat d'imiter les Israéliens quand les Israéliens, sur le sujet, se sont montrés naïfs et peut-être ridicules. L'archéologie de terrain ou l'archéologie qui est publiée, la science archéologique, déborde complètement les frontières. Ça n'a absolument aucun sens. On a entendu maintes fois, avec beaucoup de naïveté de la part de certains Israéliens, que ce qui est juif appartient à Israël. C'est complètement ridicule, vous comprenez, parce que un des plus beaux fleurons de l'archéologie juive est la synagogue de Doura Oropos sur l'Euphrate, en Syrie. Et il est hors de question que la synagogue avec les fresques du musée de Damas soit patrimoine israélien. Ça n'a rien à voir. Vous avez des synagogues en Jordanie, vous en avez en Égypte. Le monde juif était répandu tout autour de la Méditerranée. C'est pas parce que c'est juif que c'est israélien. Les Palestiniens, ils ont essayé de faire de l'archéologie, mais pas pour des raisons de propagande, mais peut-être pour des raisons aussi identitaires. Donc, à mon avis, les Palestiniens ne sont pas tombés dans le panneau.
Il y a une exposition qui a marqué les esprits, donc c'était en 2007. Cette exposition s'appelait « Gaza à la croisée des civilisations ». C'était une exposition qui dévoilait les multiples présences mises à jour par les fouilles archéologiques. Alors, pouvez-vous nous parler de cette croisée des civilisations? Quelles sont-elles?
Vous savez, toutes les expositions, la plupart des ouvrages utilisent le mot croisée, route, carrefour, etc. C'est un peu un lieu commun qu'il faudrait dépasser, il faudrait s'en défaire. La réalité est quand même vraie, c'est-à-dire que Gaza est l'aboutissement de la route célébrissime qu'on appelle la route de l'encens, qui a été un axe économique d'une importance considérable. Si vous voulez, si vous connaissez un peu Petra, Petra n'est que l'arrière-boutique de Gaza. S'il n'y avait pas eu Gaza, il n'y aurait pas eu Petra. Et Petra est, si vous voulez, la décharge des marchandises, une partie vers Palmyre, le nord en Syrie, puis une partie vers Gaza, c'est-à-dire vers le monde méditerranéen. Le monde méditerranéen, hellénistique, grec, romain, était très très friand de tous ces produits qui arrivaient par le Hedjaz, de l'océan Indien, de l'Inde, mais même de la Chine. Donc vous aviez un commerce extraordinaire qui traversait toute la péninsule et qui arrivait à Gaza. Donc tous les bateaux de la Méditerranée, avant la fondation d'Alexandrie, venaient au large de Gaza pour s'approvisionner. Donc Gaza était riche. Et comme d'habitude, lorsque vous avez une fréquentation intense entre deux sociétés, eh bien, vous avez, immanquablement et heureusement, vous avez un métissage des hommes. Et c'est pourquoi Gaza, jusqu'à aujourd'hui, a gardé un esprit d'ouverture. Ce n'est pas un territoire, ce n'est pas une petite terre enfermée sur elle-même, même si elle l'est matériellement pour le moment, mais dans l'esprit, c'est une population très ouverte. Très agréable, tous ces gens-là ont, si vous voulez, absorbé toutes les cultures qui passaient.
vous évoquez ce territoire ouvert à tous, cette terre de passage, et qui aujourd'hui est une bande de terre quand même fermée, ultra contrôlée. Alors vous-même, comment, disons, en tant qu'archéologue, vous vivez cette situation si particulière dans vos fouilles, dans votre travail, etc.
Tout s'est arrêté lorsque le Hamas a été élu. Donc mon archéologie s'est arrêtée, tout simplement parce que la France, dont je dépends, a mis l'embargo sur Gaza. L'archéologie est sous embargo. Officiellement, nous n'avons pas le droit de rencontrer l'administration locale. Et officiellement, nous n'avons pas le droit de travailler. Et officiellement, nous n'avons pas le droit, en aucun cas que ce soit, d'avoir des affaires où l'argent intervient. C'est un blocus économique et extrêmement serré. Cela dit, bah écoutez, après 4 ans, un certain nombre de gens se rendent compte du ridicule de la situation et surtout du non-réalisme d'une telle attitude. Et nous intervenons maintenant discrètement à Gaza, non pas pour des fouilles, puisque la Palestine l'interdit aussi, mais dans la préservation et la restauration des sites qui ont été fouillés.
Nous parlions tout à l'heure de Gaza à la croisée des civilisations. Selon vous, qui sont les héritiers de ces civilisations? Est-ce que ce sont les Palestiniens? Est-ce que ce sont les Israéliens? Ou peut-être les deux?
Tout dépend de l'identité de l'héritier. C'est-à-dire que les Israéliens qui ont droit au retour, qui reviennent théoriquement dans la terre de leur père, aucun de leurs ancêtres, ou presque aucun de leurs ancêtres, ne sont partis de Palestine ou de la Judée de l'époque. Donc, si vous voulez, ils ont droit à un retour spirituel, mais certainement pas d'un héritage matériel. Donc les Israéliens sont en train de se refabriquer une espèce de légitimité qui est quand même de plus en plus critiquée. Les Juifs du 1er siècle ne sont pas partis de Palestine ou de Judée. Ils se sont convertis à la religion romaine, ils se sont convertis ensuite au christianisme, ils se sont convertis à l'islam. Donc ils sont les héritiers directs, de père en fils, de l'héritage juif de l'an zéro.
Selon vous, l'archéologie peut-elle être un instrument de paix sur ce territoire justement déchiré par le conflit?
Mais j'espère bien, justement, parce que la leçon de l'archéologie, j'ai commencé par cela en réaffirmant que l'archéologie est une science, que l'archéologie débouche dans la culture, dans la notion de patrimoine, d'héritage, et qu'il n'y a pas de frontières. Donc les Palestiniens sont là, héritiers de tout cela aussi, et il n'y a pas de raison de les en déposséder. L'archéologie, le patrimoine culturel, l'héritage appartient à tout le monde. C'est facteur de paix, évidemment.